dans une situation qu'on a connue ou qu'on connaît à peu près partout dans le monde. Dans tous les pays développés, le conflit entre le maintien de l'activité et des emplois contre les désastres environnementaux.
Oui, et là, c'était un petit peu la cristallisation de ça, effectivement. C'est une chose de le concevoir de manière théorique, et puis c'est une autre de le voir dans les faits, dans les corps des gens. C'est un peu quelque chose qui, moi, m'interpelle, entre guillemets, c'est la société industrielle dans laquelle on vit et toutes les nuisances qu'elle produit. Mais on n'en parle pas beaucoup de ces genres de questions. Enfin, moi, j'en entends pas beaucoup parler. C'est vrai que c'est quelque chose, finalement, on est dans des sociétés qui sont assez nuisibles pour les êtres vivants.
C'est vrai que le monde diplomatique est de la part des décroissants et de la part des écolos, est critiqué pour plutôt défendre le monde ouvrier ou le monde des dominés que l'environnement. Maurice ?
C'est un débat qui traverse toute la société. Je veux dire, ce qui est intéressant dans le reportage qu'a fait Mathieu O'Neill, c'est qu'on voit effectivement, dans un pays comme l'Australie, alors que les discours sont à la protection de l'environnement, en période de crise, d'un seul coup, l'environnement passe au second plan, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et que la priorité est mise sur le développement d'extraction du charbon, dont on sait très bien que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, sur l'articulation entre développement et environnement, il y a des contradictions. Et les choses, vraisemblablement, ne peuvent changer que dans la durée. Je veux dire, on ne peut pas imaginer d'un seul coup une rupture brutale. On ne va pas demander aujourd'hui au Venezuela d'arrêter de l'extraction du pétrole, alors qu'on sait très bien que le développement de l'automobile individuelle est une catastrophe. Il faut des phases de transition. C'est d'ailleurs, entre autres, ce qu'est le projet au Venezuela, c'est-à-dire utiliser l'argent du pétrole aujourd'hui pour pouvoir demain développer un autre type d'économie. Mais tout ça se fait dans la durée. Ça ne veut pas dire, effectivement, on mérite parfois le reproche qu'on nous fait d'être plus attentif aux problèmes des travailleurs qu'à ceux de l'environnement général, c'est vrai. C'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, un certain discours sur l'environnement est très à la mode et qu'on a quand même tendance à oublier un peu les travailleurs et les populations qui sont dans ce genre de situation.
Serge Alimi ?
Moi, je voudrais même nuancer cette opposition entre travailleurs et environnement parce que, de fait, ce sont les catégories sociales les moins favorisées qui subissent le plus les atteintes à l'environnement. Ce sont ces catégories-là qui ont le plus de rejets d'acide, qui vivent le plus dans les États qui produisent du charbon, etc., etc. Je veux dire, on le voit aux États-Unis, ce sont surtout les Noirs et les pauvres qui subissent les atteintes à l'environnement, parce que c'est en général dans leur arrière-cour que s'installent les produits polluants, parce qu'ils n'ont pas les moyens politiques de s'y opposer, alors que les bourgeois, eux, peuvent toujours intervenir auprès de leurs élus ou au travers des lobbies qui financent pour que ces projets polluants s'installent ailleurs. En d'autres termes, il n'y a pas nécessairement cette opposition entre la défense des salariés modestes et l'environnement. À l'heure actuelle, la société étant un tout, eh bien, il est assez logique qu'elle réserve l'essentiel des problèmes aux catégories les plus défavorisées. Et c'est pour ça que quand on mène les combats qu'on mène, on peut les mener sur les deux fronts à la fois, qui sont à la fois donc la défense de l'environnement et la défense des catégories sociales qui disposent du nombre de porte-parole, de relais, etc., le plus faible dans la société actuelle.
On continue, on parlera un petit peu du Honduras et du Chiapas avec Maurice Lemoine si on a le temps, mais là on va faire un tour par la Guinée. La Guinée, c'est-à-dire la Russie. J'ai pas très bien compris l'intention. Julien Brigaud.
Alors la Guinée, c'est pas la Russie. La Guinée, c'est... je pense qu'il faut faire un tout petit peu d'histoire. Il faut rappeler que la Guinée, c'est la première colonie française à avoir pris son indépendance au sud du Sahara. Donc c'est un pays qui, au niveau de l'histoire entre la France et l'Afrique, est quand même particulièrement central. Ça s'est passé en 1958, lorsque le général de Gaulle est parti à Conakry pour proposer aux Guinéens de transformer le statut de colonie en celui de communauté française. Et on se souvient du fracas avec lequel le général de Gaulle a reçu le nom de la Guinée, qui était en fait le nom de Sékou Touré, son leader. Et cette année de 1958 a ouvert la voie à la lutte contre l'impérialisme français et a laissé la place finalement à deux puissances qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène en Guinée, ce sont la Chine et la Russie.